I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. Régulièrement, l'intérêt des médias est capté par l'actualité de ce qu'on qualifie généralement de démocratie autoritaire, ces États qui d'extérieur ont l'ensemble des atours des républiques telles que nous les connaissons, mais qui sont désormais aux mains de dirigeants dont les discours et les décisions parfois brutales semblent en contradiction avec la notion même de démocratie. Je pense bien évidemment à Jair Bolsonaro au Brésil, à Viktor Orban en Hongrie, à Donald Trump aux États-Unis. Certains ajouteront même à cette liste Emmanuel Macron chez nous, mais par contre, rares sont les fois où on associe à ce virage autoritaire global l'Inde et son dirigeant Narendra Modi. Le pays est encore souvent vanté comme un modèle d'ouverture politique, comme l'exemple vertueux en Asie comparé à la Chine forcément dictatoriale. Et pourtant, l'Inde traverse depuis plusieurs années déjà une crise démocratique profonde, aux conséquences désastreuses, surtout pour les minorités religieuses très durement touchées. Ça a notamment encore très récemment été le cas pour les musulmans indiens dans plusieurs états du pays. Pourquoi cette crise nous échappe-t-elle? C'est la question qui sera au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. D'abord, pour qu'on ne soit pas totalement paumé, un peu d'histoire. L'Inde est officiellement un système démocratique indépendant depuis 1950. Sa constitution fait d'elle une république souveraine, socialiste, laïque, démocratique, c'est écrit comme ça. Elle fonctionne de manière parlementaire sur le modèle de son ancien colonisateur, le Royaume-Uni, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un président de la République élu au suffrage indirect et dont le rôle est plutôt décoratif puisque l'essentiel du pouvoir réel est détenu par le Premier ministre qui, lui, est le chef de la majorité ou de la coalition majoritaire élue au Parlement. Jusque-là, c'est assez classique. L'Inde, par ailleurs, est une fédération, c'est-à-dire qu'elle est composée de plusieurs États, 29 en tout, auxquels s'ajoutent 7 territoires de l'Union. L'Union, c'est le nom du pouvoir central, donc que dirige le Premier ministre et qui a la main notamment sur la monnaie, la politique étrangère, la défense nationale, etc.
Le Pandit Nehru, Premier ministre de l'Inde, est arrivé au Bourget, où il a été accueilli à l'indienne par sa sœur, ambassadrice à Washington. Accompagné de M. René Pleven et de M. Schumann, il allait aussitôt à l'Élysée rendre visite au président Auriol. Il devait lui exprimer sa conviction de voir la paix triompher en dépit de la crise extrême-orientale.
Le premier Premier ministre de l'Inde a marqué durablement la politique du pays et l'image qu'on en a vue de l'extérieur. Il s'appelait Jawaharlal Nehru, il a dirigé le gouvernement central pendant 17 ans jusqu'à sa mort en 64. Il est à l'origine d'une véritable dynastie politique puisque sa fille et son petit-fils ont tous les deux été premiers ministres. Indira Gandhi d'abord, deux fois, de 66 à 77, puis de 80 à 84, et Rajiv Gandhi, le fils d'Indira, de 84 à 80. Ils ont par ailleurs été, l'un comme l'autre, assassinés et n'ont aucun lien de parenté direct avec le Mahatma Gandhi, même si Nehru fut un de ses proches au sein du parti du Congrès. Le Congrès, c'est le parti qui a incarné la principale force politique d'Inde pendant les dernières décennies. Il est toujours aux mains de la famille Nehru-Gandhi, mais a largement périclité électoralement. Il a été rongé par des scandales de corruption et a laissé le champ libre à l'actuel Premier ministre Narendra Modi, qui lui est à la tête du BJP, le Bharatiya Janata Party, un parti nationaliste hindou, issu, et on va en parler, d'un groupe paramilitaire très controversé. Mais avant ça, je vais laisser la parole à notre invité du jour, la journaliste de Courrier International Ingrid Terwatt, qui connaît par cœur toutes ces complexes dynamiques puisqu'elle a notamment consacré sa thèse de doctorat en sciences politiques à l'Inde et signé bon nombre d'articles et d'ouvrages sur le nationalisme hindou. J'ai commencé par lui demander s'il était correct de dire, comme je l'avançais au tout début de cet épisode, que l'Inde, sous la gouvernance de Narendra Modi, était devenue une démocratie autoritaire.
Oui, on peut le dire sans aucun souci. On peut même se poser la question de la nature même du système indien. Est-ce que c'est toujours une démocratie? C'est une question qui se pose, à laquelle on peut pas dire un franc ni oui ni un franc non, à vrai dire. Donc c'est assez problématique. Après, c'est sûr qu'en France, les médias sont largement responsables de cette idée que c'est toujours la plus grande démocratie du monde. Et c'est un espèce de cliché qui est véhiculé sans cesse et qui empêche un peu l'analyse. En fait, depuis depuis plusieurs années, notamment sous le régime de Narendra Modi, l'actuel Premier ministre, qui a été réélu en mai 2019 pour 5 ans, mais qui est au pouvoir en Inde depuis 2014. Bien, l'Inde a les atours formels d'une démocratie, c'est-à-dire qu'il y a des élections qui ont lieu à intervalles réguliers, avec plusieurs partis, plusieurs candidats dans chaque parti. Et pourtant, dans son fonctionnement, on ne peut pas dire que les libertés soient garanties, que les minorités soient protégées. Il y a beaucoup de caractéristiques d'un régime autoritaire.
Il y a un point notamment qui nous a fait tiquer, nous a poussé à nous interroger, c'est ce qui est en train de se passer dans l'Assam, dans la région de l'Assam, autour des minorités musulmanes. Est-ce qu'on peut expliquer un peu qu'est-ce qui est en train de se dessiner dans cette zone très particulière du pays ?
Alors c'est une histoire assez compliquée, c'est pas facile de vous résumer ça, mais donc l'Assam est une région de l'Inde. L'Inde est une fédération, c'est un État de l'Inde. Mmh. Au sein de la fédération indienne, qui est limitrophe du Bangladesh. Et il y a une population autochtone locale qui voit depuis longtemps, d'un œil circonspect pour le moins, la présence de gens non locaux, non autochtones. Ça peut être des hindous qui viennent du Bengale, des non-hindous qui viennent du Bengale, ou une population qui viendrait du Bangladesh. Donc ça, c'est un sujet de tension depuis de nombreuses années. Et ce qui se passe là, en ce moment, pour revenir à l'actualité, c'est que le gouvernement a décidé de faire un recensement des Assamais indiens et des non-indiens, et de mettre sur une liste d'étrangers, de façon quand même très problématique, plein de gens. Et les gens sont sommés de produire des documents d'état civil, qui n'existent pas toujours, enfin qui sont parfois très compliqués à produire, et pour prouver qu'ils sont indiens, et qui, ou alors pour dire voilà qu'ils doivent changer de liste. Et il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a par exemple des militaires qui ont servi sous les drapeaux indiens, qui sont indiens depuis X générations, qui sont retrouvés placés sur la liste des étrangers. Alors il y a des tribunaux maintenant, qu'on appelle les tribunaux pour étrangers, qui statuent de façon souvent très expéditive sur le sort de ces nouveaux apatrides. Et alors, c'est problématique parce qu'on enlève à des tas de gens leur citoyenneté, ils deviennent apatrides, on leur enlève leurs droits aussi. Et puis, c'est pas cette liste, elle n'est pas faite au hasard. En fait, on constate que la majorité des gens rendus apatrides sont des musulmans. Ce qui se passe en Inde, c'est que les musulmans indiens, c'est quand même plus de 14% de la population, ça fait 200 millions de personnes, ce qui fait de l'Inde le troisième pays musulman du monde en nombre de gens. Eh bien, ces musulmans, ils sont relégués à un statut de citoyen de second rang, dont on peut, à qui on peut enlever des droits, qu'on peut parquer dans un état sans communication comme au Cachemire, qu'on peut rendre apatride. Les soi-disant étrangers, je dis soi-disant, en Assam, on a décidé de les mettre dans des camps, dans des espèces de camps d'internement. Ça rappelle ce qui se passe avec les Ouïghours en Chine, puis ça rappelle d'autres choses qui sont passées en Europe au XXe siècle. C'est pas des camps de concentration, c'est des camps d'internement. Des intellectuels indiens opposants ont parlé de goulag. Voilà, ça c'est ce qui se passe en Inde, en Assam. Donc effectivement, dans ces conditions, est-ce que l'Inde est une démocratie ? Est-ce que la dictature de la majorité, c'est la démocratie ? Pas vraiment, non.
Ce que ça illustre aussi, et on en revient au début de notre conversation, c'est que Narendra Modi a opéré depuis plusieurs années, depuis qu'il est au pouvoir, un recentrage, on va dire, politico-religieux, qu'on a du mal à appréhender de notre point de vue occidental, parce que forcément, ce sont des dynamiques qu'on connaît assez mal. Est-ce qu'on peut l'expliquer ?
En fait, c'est des dynamiques qu'on connaît très bien. À vrai dire, parce que on est très familier en Europe du fascisme, qui est né en Europe et qui n'avait pas forcément en Europe cette teinte, cette coloration religieuse, mais qui l'a en Inde. Narendra Modi, il est représentant d'un parti et plus généralement d'un mouvement nationaliste hindou, dont la maison mère est une milice. Son parti, le BJP, est une émanation de la milice. C'est pas l'inverse. C'est pas un parti qui aurait une petite force armée d'extrémistes. Non, c'est l'inverse. Et cette milice, elle a été créée en 1925 sur le modèle des faisceaux mussoliniens. il y a vraiment une genèse commune entre le fascisme européen et le fascisme hindou-indien. Donc, ce qu'on vit actuellement, c'est le prolongement de ça. Et Narendra Modi, lui, est un défenseur tout à fait ouvert. Enfin, c'est dans ses programmes, c'est écrit noir sur blanc, ouvert, assumé, une idéologie qui s'appelle l'idéologie de l'hindutva. Hindutva, ça veut dire l'hindouité, on pourrait traduire ça comme ça. Et c'est pas juste la défense du droit des hindous, parce que ça, au fond, personne n'y serait très opposé, mais c'est surtout de faire de l'Inde, qui est pourtant, selon sa constitution, un pays laïque, un pays hindou, où les hindous seraient privilégiés et où les autres devraient se soumettre et seraient au mieux tolérés. Ce qui est totalement contraire à l'esprit même de l'Inde, qui est un pays qui s'est façonné socialement et politiquement en incorporant toujours des influences étrangères, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes, parsies, etc. Donc ça, c'est une idéologie de domination par la religion.
Ma pensée a toujours été obsédée par la liberté. Il fallait d'abord, bien sûr, nous libérer de la tutelle coloniale, avoir notre propre gouvernement. Ceux qui sont libres ne peuvent imaginer l'humiliation de ne pas l'être. Cela ne se situe pas dans l'imagination. Cela vous frappe à chaque instant. Certaines rues de nos villes, par exemple, étaient interdites aux Indiens. Si vous étiez Indien et si vous voyagiez dans un compartiment que vous aviez réservé et payé, et qu'un soldat anglais passe et dise « Je veux ce compartiment », il jetait vos bagages dehors et tant pis pour vous.
Comment est-ce que cette idéologie, justement, si elle est tellement en contradiction avec ce qui constitue même l'Inde, s'est retrouvée au pouvoir en premier rang? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a merdé, j'ai envie de dire, dans le processus démocratique indien pour qu'on en arrive là?
Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a merdé dans le processus démocratique ou si c'est au contraire peut-être le résultat de la démocratie. Modi a été élu démocratiquement, on ne peut pas lui enlever ça. Et il a été élu deux fois, pas juste une fois. Donc c'est comme d'autres dictateurs sont arrivés au pouvoir par les urnes. C'est très compliqué. C'est pas forcément le système électoral qui est fautif. Il y a beaucoup d'explications qui permettent de comprendre l'avènement du nationalisme hindou. D'abord, c'est pas récent. C'est un mouvement très ancien qui travaille depuis très longtemps à l'étranger comme en Inde, qui lève des fonds à l'étranger. Il est très soutenu par la diaspora indienne. Il a aussi doublé son discours ultra-nationaliste anti-musulman pro-hindou d'un discours ultra-libéral sur le plan économique. Donc, il a eu le soutien des grosses entreprises. Le discours sur le développement économique, les gens en reviennent un peu parce que les chiffres de l'économie indienne sont quand même très mauvais, les chiffres de la croissance notamment. Mais voilà, ça a été une alliance de classes dominantes, industrielles, la bourgeoisie, intéressée vraiment par les bénéfices matériel qu'elle pouvait tirer de ce régime, donc c'est l'alliance de ça, et de gens qui se sentaient peut-être laissés pour compte, ou qui se sont sentis menacés dans leur fierté, ou qui avaient une envie d'affirmer leur fierté hindoue. Ce qui est un paradoxe, parce que les hindous représentent plus de 80% de la population, et qu'ils ne sont pas menacés. Mais c'est le fruit aussi d'années, de décennies de propagande, où on explique que les musulmans veulent convertir les hindous de force, voire les noyer démographiquement. On retrouve le vocabulaire du grand remplacement, si vous voulez, du vocabulaire d'extrême droite, qui existe en Europe et qui existe aussi en Inde. Finalement, on a les outils, nous, en France et en Europe, pour comprendre très bien ce qui se passe.
Est-ce qu'il a aussi bénéficié quelque part, je sais que c'est un argument en tout cas qui revient très souvent dans sa bouche, du délitement du Parti du Congrès, qui était le parti qui a pendant très longtemps été aux commandes, et qui a des grandes figures comme ça, qui est un peu le parti fondateur de la démocratie indienne?
Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas, en tout cas, il y a eu ce délitement du parti du Congrès qui n'a pas su se renouveler, qui est resté dans un fonctionnement quand même assez dynastique, bien que tous les partis, en fait, ont un fonctionnement assez dynastique, dont le parti de Narendra Modi, mais en tout cas, qui n'a pas su s'affranchir de la mainmise de la famille Nehru-Gandhi. Il y a eu beaucoup d'affaires de corruption, il y avait aussi une lassitude des gens. Donc, il y a ça. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a plus. Il y a des opposants, des journalistes, des intellectuels, des artistes. Mais d'abord, ils sont harcelés. Et puis, en politique, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de figure qui pourrait incarner vraiment, sur le plan national en tout cas, d'alternative crédible. On a cru à un moment avec le Am Admi Party, le parti de l'homme ordinaire, que ça pourrait être une alternative à la fois au Congrès et aux nationalistes hindous. Et puis finalement non. Donc il y a une déception. Et par ailleurs, plus les années passent, plus Modi incarne le pouvoir. Il y a une propagande autour de sa personne. C'est un populiste qui vraiment concentre tous les regards sur lui. Donc c'est assez compliqué. Pour l'instant, le Congrès est moribond et il n'y a pas, sur le plan national, j'insiste, parce que c'est une fédération, il ne semble pas y avoir de force qui puisse faire contrepoids.
Est-ce qu'aussi, si Narendra Modi ne nous apparaît pas, ne nous est pas présenté en tout cas, comme un dictateur ou un fasciste, ou comme étant à la tête d'un État autoritaire, c'est parce qu'il incarne un partenaire commercial qui est extrêmement intéressant pour de nombreuses puissances occidentales, en tout cas présenté comme tel?
Je crois qu'il y a deux raisons, celle dont vous parlez, évidemment, et puis une autre qui est liée à notre perception orientalisante, exotisante de l'Inde. On a cette idée totalement fausse, ou en grande partie fausse, que l'Inde est un pays non violent, est une démocratie presque de façon essentialiste et essentielle par opposition à la Chine qui serait ontologiquement dictatoriale. Donc voilà, l'Inde, la plus grande démocratie du monde, non violente, etc. On a cette idée-là qui n'est pas tout à fait exacte. Et par ailleurs, même quand on sait les torts de Narendra Modi, on peut dire que nous, les Français, enfin nous, le gouvernement français en tout cas, on s'assoit largement sur les droits de l'homme, sur même des engagements qu'on avait pris quand on a décidé, avec l'Union européenne, bien sûr, d'interdire de territoire Narendra Modi à cause des pogroms qu'il avait laissé orchestrer quand il était à la tête du Gujarat en 2002. Donc on s'assoit sur tout ça. Pourquoi ? Bah oui, parce qu'on a intérêt à vendre des avions, à vendre des équipements, parce que c'est un grand marché potentiellement, parce qu'on a des intérêts stratégiques sur le plan géopolitique, aussi pour contrer la Chine. Donc, il y a un pragmatisme défendu comme tel, pragmatisme, et qui pourrait être analysé ou perçu comme une forme de compromission.
Et est-ce que peut-être du point de vue du grand public, pour le coup, la médiatisation qui commence de la situation, notamment dans l'Assam et du Cachemire, peut faire évoluer notre perception, justement, en tout cas nous pousser à nous interroger un peu plus sur ce qui est concrètement en train de se passer en Inde?
Le fait que vous me posiez la question, par exemple, veut dire que vous vous la posez, qu'il y a plein d'autres gens, il y a des auditeurs qui doivent se poser la question aussi. Oui. En fait, on commence à découvrir, en France en tout cas, le vrai visage de Narendra Modi, parce que là, depuis sa réélection, il a décidé de taper très fort avec des mesures vraiment anti-musulmanes, hyper autoritaires, anti-minorité de façon générale, et en laissant totalement tomber son discours sur l'économie. Donc il ne fait qu'appliquer son programme d'hindouisation à marche forcée. Donc oui, on se rend compte maintenant, depuis le mois de mai-juin, et particulièrement avec ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours au Cachemire, et ce qui se passe en Assam, cet aspect très très dérangeant de Modi et du mouvement qu'il incarne. Par exemple, au Cachemire, on en a beaucoup parlé cet été, et ce qui est compliqué, c'est qu'on en parle moins et qu'on en parlera moins. Mais ça continue, en fait, et l'Inde compte sur une espèce de lassitude, et c'est vrai que l'opinion internationale s'est pas vraiment émue, on s'émeut sur le coup, et puis après on laisse tomber, on passe à la prochaine catastrophe. Mais là, par exemple, il y a 13 000 adolescents, jeunes adolescents, des garçons de 11, 12, 13 ans, qui ont été arrêtés au Cachemire, détenus, parfois torturés. Et ça, voilà, et ça, ça se passe. Il y a un blocus, il y a une propagande en Inde, blocus de l'information, mais malgré tout, il y a des journalistes qui sont sur le terrain et qui arrivent à sortir les infos, beaucoup dans la presse étrangère, et on continue à en parler. Donc la situation perdure, et les gouvernements étrangers détournent les yeux pour des raisons souvent stratégiques et commerciales, et l'opinion publique doit continuer à être sans arrêt alertée parce que ça ne cesse pas, en fait. C'est pas un événement qui s'est passé en août et puis c'est réglé. Ça continue.
Et par ailleurs, on en a peu parlé, mais l'un des grands responsables de ce virage autoritaire, c'est le bras droit de Narendra Modi, le ministre des Affaires intérieures, l'équivalent du ministre de l'Intérieur chez nous, Amit Shah, un personnage qui à lui seul vaudrait un épisode entier. Merci à Ingrid Terwatt pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.